VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Bénin, le gouvernement a ordonné à l'ambassadeur de l'Union européenne de quitter le territoire, l'accusant d'activités subversives et d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Les précisions d'Irénée Armand Ombo.
Les autorités béninoises ont donné jusqu'au 1er décembre à Olivier Net, chef de la délégation de l'Union européenne à Cotonou, pour partir du Bénin. Nous déplorons que cette coopération entre le Bénin et l'Union, qui se porte très bien et qui est incontournable, ait été perturbée par les activités de ce diplomate qui se laisse aller à des activités que nous pouvons considérer comme subversives, a déclaré le porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Nulle part au monde, encore moins dans les pays occidentaux, vous ne verrez un diplomate africain manquer à ses obligations de courtoisie et à son devoir de réserve, a-t-il indiqué. Le gouvernement l'accuse de s'ingérer beaucoup trop dans les affaires intérieures et de ne pas respecter son devoir de réserve de diplomate. La presse béninoise a fait état d'une rencontre récente entre M. Net et des représentants d'un groupe d'opposition de l'ancien président Boni Yayi. La délégation de l'Union européenne à Cotonou n'a souhaité faire aucun commentaire. À Bruxelles, on se dit extrêmement surpris de cette décision, assurant ne pas connaître les raisons spécifiques.
Élection en Guinée-Bissau, deux anciens premiers ministres, Domingos Simoes Pereira et Umaro Mbalo Sissoko, s'affronteront au second tour de la présidentielle le 29 décembre. Deux produits du système politique en place vont ainsi s'affronter pour succéder au président sortant José Mario Vaz, qui n'a pas franchi le cap du premier tour. Pour une analyse, Idriss Fall a joint notre confrère Mahmoud Cissé à Bissau, la capitale.
L'ancien premier ministre candidat du PAIGC, Domingo Simoes Pereira, qui est arrivé avec 40,13% des voix, et Umaro Mbalo Sissoko, qui est arrivé avec 27,65% des voix. Donc, c'est les deux qualifiés pour le deuxième tour.
Qu'est-ce qui va être déterminant pour ce deuxième tour, alors?
C'est le pragmatisme et le programme. Je pense que Domingo Simoes Pereira est en pole position parce qu'il a un programme qui s'appelle Terra Ranca, qu'il a pu vendre, entre guillemets, à la population et la population a adhéré carrément à ce programme. Donc, je pense que c'est le favori, sauf surprise, de dernière minute.
Mais il y aura des alliances quand même et des ralliements.
Oui, il y aura des alliances, forcément. Donc, je pense que tous les candidats sont en train de tisser des alliances. Il y avait une alliance entre l'appui, le faiseur de roi qui est Nuno Nabian et Domingo Simoes Pereira. Quelques temps après, Nuno a cassé cette alliance. Mais je pense que le dialogue n'est pas coupé carrément entre le PAIGC et la PUPGD de Nuno Nabian. Donc, chaque candidat essaye de rallier le maximum de voix et de compromis. Je pense que Domingo, quand même, a une longueur d'avance sur les autres candidats.
Mais comment expliquez-vous que le président sortant ne soit pas parmi les favoris?
Oui, c'est très simple, parce que depuis sa rupture avec le PAIGC, qui est le parti libérateur et le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, sans compter aussi que bon, les différents accords qui ont été faits à Abuja, bon, il s'est renié tout seul, donc il a pu se mettre à dos pratiquement toute la population, avec l'Assemblée qui ne fonctionnait pas, il était isolé. Et le dernier en date, c'est la nomination de son premier ministre qui était illégal, Cosimo Mbalo. Et ça, ça a révolté toute la population bissaoudienne.
Quelle que soit l'issue, le prochain président a du pain sur la planche quand même. Hein?
Ah oui, ça, je pense que tous les candidats sont unanimes là-dessus, que le prochain président a du pain sur la planche. Parce que à Bissau, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, l'éducation ne marche pas, la santé, etc., etc. Donc, tout est à refaire et aucun candidat n'a une baguette magique.
Notre confrère Mahmoud Cissé, journaliste à Bissau. Violence dans le Sahel maintenant, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a exhorté le Mali et le Burkina Faso mercredi à agir plus au plan politique pour rétablir la stabilité dans les territoires secoués par les violences djihadistes et intercommunautaires. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Ce qui me paraît encore le plus important maintenant, c'est encore plus d'action politique, a-t-il déclaré devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale après la mort de 13 militaires français lundi dans une opération anti-djihadiste au Mali et sur fond de flambée de violence dans les deux pays. Un accord de paix avec les rébellions qui s'étaient soulevées en 2012 a été signé en 2015, mais son volet sur le désarmement des groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes peine à être appliqué. Plus de politique aussi pour faire en sorte que la mise en œuvre de la force conjointe du G5, Mali, Mauritanie, Niger, Burkina et Tchad, soit concrétisée, a poursuivi Jean-Yves Le Drian. Le chef de la diplomatie française s'est également inquiété, je cite, de la manière dont la désinformation puisse se faire singulièrement au Burkina et au Mali depuis peu. Il y a une vraie bataille de communication à mener, une vraie campagne d'explication pour éviter le développement de fausses informations. Fin de citation. Les troupes étrangères au Sahel, notamment celles de la force française Barkhane, font face à un rejet apparemment grandissant chez les habitants du Burkina Faso, du Mali et du Niger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Violence en République démocratique du Congo. Trois membres d'une équipe anti-Ebola ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une attaque contre une base où vivent des employés engagés dans la riposte contre l'épidémie de fièvre hémorragique à Biakato, province de l'Ituri, dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source onusienne. Le personnel décédé, une personne travaillant pour le ministère congolais de la Santé et deux chauffeurs. Il y a aussi cinq blessés et une personne portée disparue lors de cette attaque. Une autre incursion contre le personnel anti-Ebola a été repoussée à Mangina, dans la même province de l'Ituri. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ses partenaires soignent les blessés et mettent d'autres membres du personnel anti-Ebola en sécurité, a précisé l'OMS sur son site Twitter en RDC. L'OMS est le partenaire du ministère congolais de la Santé dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans le pays. Et dans la province voisine du Nord Kivu, au moins 19 civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué au groupe armé rebelle des ADF près de la ville de Beni. Et ce, alors que la région est secouée depuis une semaine par les protestations violentes des habitants qui dénoncent ce qu'ils appellent la passivité de la MONUSCO, la mission onusienne sur place, et aussi des autorités congolaises face aux tueries. Les détails avec Abdourahman Dia.
Ce dernier massacre a eu lieu à 30 km au nord de Beni, à l'entrée d'une zone appelée le Triangle de la Mort, en raison des tueries qui s'y déroulent depuis plusieurs années. Un porte-parole de la force onusienne a indiqué que la MONUSCO a envoyé hier une force d'intervention rapide avec des militaires congolais. Le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York avance un bilan de 99 personnes tuées dans la région de Beni depuis le 5 novembre. Les auteurs de ces tueries sont dans l'immense majorité des cas des membres du groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées. En réponse à ces tueries, la région de Beni est agitée depuis une semaine par des manifestations anti-ONU qui ont fait au moins 7 morts depuis samedi. L'ONU a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort d'un manifestant congolais tué mardi lors d'un face-à-face avec des casques bleus.
Afrique centrale, toujours opération anticorruption au sommet de l'État au Gabon. Le coup d'envoi a été le limogeage le 7 novembre de Brice Lacouche Alianga, directeur de cabinet de la présidence d'Ali Bongo Ondimba. Actualité aux États-Unis maintenant, une partie du pays est sous la neige. Ces tempêtes ont perturbé les transports mercredi à la veille de Thanksgiving, la fête d'action de grâce. Un jour férié est l'une des périodes les plus chargées de l'année sur les routes et dans le ciel. Bagassi Koura.
Un événement météorologique extrêmement actif est en place à travers la plupart des États-Unis, indiquent les services météo. La neige et le blizzard ont d'abord touché le Colorado et le Wyoming avant d'aller vers l'est et la région des Grands Lacs. À Denver, dans le Colorado, où il est tombé mardi 30 cm de neige, près de 500 vols ont été annulés et 500 autres retardés, forçant un millier de passagers à dormir à l'aéroport depuis lundi soir. Voitures sur le bas-côté, camions bloqués dans l'ouest et le Midwest, de multiples routes ont été coupées après des tempêtes de neige. Dans le sud de l'Oregon et le nord de la Californie, les autorités ont aussi conseillé à la population de rester chez elle en prévision de vents violents. À New York, ces vents pourraient aussi clouer au sol les ballons géants de la traditionnelle parade de Thanksgiving ce jeudi matin. Environ 55 millions de personnes sont attendues sur les routes ou dans les airs pour ce long week-end dévolu à la famille.
Actualité américaine, toujours, le secrétaire d'État Mike Pompeo ira au Maroc la semaine prochaine, un partenaire essentiel dans la stratégie diplomatique des États-Unis dans la région. Monsieur Pompeo sera le plus haut responsable américain à se rendre au Maroc depuis l'élection du président Donald Trump. Merci de votre attention.